Et c'est là que je me suis dit, bon, si tu veux, encore une fois, faire les choses bien, si tu veux une belle issue, il faut que tu aies un bon début. Et le bon début, c'est sortir des plateformes de rencontres pour traiter ta problématique à la racine. Parce que c'était clair, net et précis, j'avais un problème. Le fait de faire les causes en essayant modestement de faire le bien ou de soulager un moumine, un de nos frères ou une de nos sœurs filaires, elles sont là les vraies causes en fait. Et donc je me suis dit, bon bah Madina, si ça fait autant d'années que t'en es là et que t'as pas encore transformé l'essai, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est faire un examen de conscience. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est regarder là où ça a péché. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Peu de temps seulement après avoir entamé ce qui s'avéra être ma dernière muqabala, j'ai assez vite pressenti que j'arrivais à un tournant de ma vie, que cette rencontre, elle serait différente des autres. Qu'elle me conduirait paisiblement, mais sûrement, si Dieu le souhaitait, évidemment, vers la fin. La fin d'un long chemin à chercher cet être avec lequel le Très-Haut avait décidé d'entrelacer mon destin. Alors, très vite, j'ai fait quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. J'ai allumé mon PC et j'ai consigné les changements que j'avais opérés, les causes que j'avais enclenchées pour me marier. Ce qui est très drôle, c'est que tout ce que j'avais noté dans cet espace pixelisé était tout aussi inédit. Au final, toutes ces causes qu'on ne m'avait jamais dites, mais qu'Allah avait prédit, m'ont permis par sa grâce illuminée d'avancer comme jamais. Ce podcast me semble donc être un espace tout trouvé pour vous les partager durant les deux prochains épisodes que vous écouterez. J'espère qu'elles feront tilt pour vous aussi, mais surtout, surtout, qu'elles vous mèneront tout droit, Inch'Allah, vers le premier jour du reste de votre vie. Je vous souhaite à toutes et à tous, Inch'Allah, une excellente écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien, que la paix et l'amour rayonnant d'Allah soient sur chacun et chacune d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode solo pour cette nouvelle saison. Je vous avais un peu prévenu dans l'épisode spécial à rentrée. Cette année, il y aura plus d'épisodes en solo que l'année dernière. Et en fait, subhanallah, à l'époque où je vous ai dit ça, en fait, j'arrivais pas à mettre le doigt sur quelque chose qui était là. En fait, je comprenais que il y avait des choses qui allaient changer parce que j'avais changé et qu'en fait ce podcast il est quand même très lié à mon parcours en tant que croyante et en tant que femme d'abord célibataire puis épouse etc. Et je peux pas dissocier ça en fait. C'est-à-dire que loin de moi l'envie ou l'idée de faire tourner ce podcast autour de ma personne, c'est vraiment pas mon énergie. Mais ce podcast il fonctionne aussi parce que j'y vais avec beaucoup de sincérité dans la démarche. Et donc si je suis honnête dans la démarche, dans la saison 1, j'étais beaucoup dans une quête. Et d'ailleurs, je ne m'en suis jamais cachée, hein. J'étais en quête. Je ne comprenais pas pourquoi on avait autant de difficultés à rester mariée pour les personnes qui étaient mariées. Je ne comprenais pas pourquoi on avait autant de mal à se marier pour les personnes célibataires, alors que pour le coup, je gravitais beaucoup dans cet environnement-là. Et vraiment, je peux vous dire que l'envie était là. L'envie était là. J'ai vu des frères et des sœurs revenir sans cesse à des événements pour célibataires, et à destination des célibataires, pardon, et rentrer bredouille, en fait. Et je ne comprenais pas. Je savais qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas où est-ce qu'il était. Et la saison 1, elle a vraiment été basée ou focalisée sur le fait d'obtenir des réponses à ces questionnements-là, en interrogeant des couples, des professionnels, des savants, des hommes, des femmes, des thérapeutes. Quand je suis arrivée dans la saison 2, je sentais que, encore une fois, je sentais que quelque chose avait bougé, mais je ne savais pas vraiment mettre un mot dessus. Et j'ai pris le temps, justement, de réfléchir à ça, et j'ai réalisé que là, je suis à un moment de ma vie où je ressens comme une urgence, c'est d'accompagner les croyants, donc moi la première, hein, vers la déprogrammation. Ce que j'appelle la déprogrammation de l'amour, de la perception de l'amour, de la perception du mariage, qui sont des perceptions qui ont été notamment abreuvées par les médias ou par les studios hollywoodiens. Mais toutes ces structures-là ne font qu'obéir, je pense, à un plan beaucoup plus grand et qui est, je pense, de plus en plus visible. Ce plan, c'est de détruire la famille, en fait, tout simplement. Je pense qu'on le voit dans les dernières actualités et on le voit d'une manière générale. Le taux de divorce, il a atteint 60%. C'est pas pour rien. C'est pas juste parce qu'on ne sait pas s'y prendre. C'est parce qu'on a beaucoup de dichotomie entre nos envies profondes d'être mariés et ce qu'on nous vend toute la journée, en fait, dans ce que devrait être le mariage, ce que devrait être l'amour. Et tout ça, ça rentre en conflit avec notre quotidien, qui n'y ressemble pas du tout à ce qu'on nous vend. Et moi, mon urgence, c'est vraiment de se débrancher, en fait, de ça, parce que plus on reste branché là-dedans, plus on sera dans des difficultés qui pourront mener au divorce pour les couples, ou plus on sera dans ce que j'appelle, moi, un labyrinthe, littéralement un labyrinthe pour les célibataires, dont il est extrêmement, extrêmement difficile de sortir. Et voilà, moi, la saison 2, j'ai vraiment à cœur de travailler là-dessus. C'est un sujet qui me... que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, et je me dis, il y a beaucoup d'urgences dans ce bas monde, hein. Il y a des urgences climatiques, il y a des urgences politiques, il y a des urgences, mais moi, l'urgence que j'ai envie de traiter, c'est vraiment celle-ci. J'aimerais tant qu'à la fin de cette saison 2, peut-être même avant, Inch'Allah, on puisse tous se dire, ah, ça y est, j'ai craqué le code, c'est bon, je sais ce que c'est que l'amour, je sais ce que c'est que le mariage, et honnêtement, je pense qu'on peut se le dire très très sincèrement, c'est dur aujourd'hui de savoir ce que c'est que l'amour, c'est dur aujourd'hui de savoir ce que c'est que le mariage, un mariage sain, j'entends, un mariage qui est validé par Allah, un mariage qui nous apporte, un mariage où on est heureux, parce que très souvent on a l'impression que il y a soit l'amour qu'Allah veut pour nous et c'est un amour un peu fade, un peu triste, un peu trop dans le quotidien, soit on a cet amour incroyable, cet amour auquel on veut croire, cet amour que l'on pense ou que l'on dit mériter, mais c'est un amour qui semble réservé à une élite, c'est un amour qui semble très très difficile à attirer. Et moi j'ai trop envie qu'aujourd'hui on a les ressources, c'est bon, machallah, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là et on doit pouvoir se déprogrammer pour mieux se programmer, se connecter à l'amour d'Allah et renforcer nos familles, renforcer les couples, renforcer le cœur des personnes célibataires, alléger leur parcours du célibat parce que c'est un parcours qui est semé d'embûches et notamment de ouest-ouest et de pensée erronée autour de ce sujet-là. Donc voilà, sur la saison 1, je me posais plus des questions. Sur la saison 2, je pense que je serai plus dans l'action. Et cette action, elle passera par différentes choses, notamment le fait d'avoir des épisodes solo où je profiterai de ces occasions-là pour méditer avec vous sur des enseignements, soit à travers des histoires que j'ai entendues, soit à travers mon parcours à moi du célibat vers le mariage, parce que il y a vraiment des choses sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi et alhamdoulilah, des choses où on peut faire des connexions avec notre merveilleux livre qu'est le Coran, et il me tarde de vous les partager et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de valider ou d'agréer plutôt l'ensemble des propos et tout le bien qui ressortira de tout cela revient à Allah évidemment et les manquements seront les miens. Donc on va commencer, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet précis, c'est le sujet des causes, faire les causes pour se marier. Je vous en parle parce qu'en fait, très souvent, c'est un sujet, quand on parle des causes, on est beaucoup autour de l'action, de rechercher le prétendant. Et moi la première, hein, on a une perception très recherche, presque chasse, subhanallah. Moi, je remets pas en question cette recherche-là. Moi, j'ai toujours été une fervente défenseuse de se bouger entre guillemets, ou plutôt de d'être en action, d'être dans le mouvement plutôt. Mais avec les années, j'ai réalisé que quand on n'est que dans cette démarche-là, quand on a une vision des causes très orientée action, ça a ses limites. Les limites d'une perception très ancrée action dans la recherche du mariage, elles sont de deux types. La première des limites de cette manière de penser, c'est que, en fait, ça peut nous emmener beaucoup de frustration. Je m'explique, en fait, ça amène la frustration. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est dans une optique très, très dynamique et beaucoup dans l'action, eh bien, en fait, on finit par attendre beaucoup de résultats. Parce qu'on se donne. On se donne vraiment beaucoup. Et on se dit... on finit par croire qu'en fait, tout ne viendra que de ça. Et quand ça ne vient pas, on est terriblement frustré. Sauf que quand on est dans l'action notamment avec d'autres personnes, et en fait, eh ben, ces personnes-là, parfois, on ne leur convient pas, ou eux, ils ne vous conviennent pas non plus, et ça, ben, ça se commande pas. Bon, à la limite, vous pouvez réfléchir sur pourquoi vous, la personne, elle ne vous plaît pas. Mais en tout cas, quand on fait plein de causes, mais que le Zawadj, il ne vient pas, on est hyper frustré parce que, inconsciemment, cette course-là effrénée nous fait presque penser qu'on mérite un résultat. Attends, je me suis donné quand même, hein, je mérite du résultat. Ou il faut faire très attention parce que ce genre de posture, ça peut parfois amener à une forme d'ingratitude en fait envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est en ça que c'est dangereux. Et la deuxième limite d'une démarche très liée sur l'action, eh bien, c'est qu'en fait, on est tellement dans l'action. On est tellement justement, on a tellement avancé qu'on a fini par se perdre. Vous savez, c'est un peu comme quand on joue à... En fait, on finit par se perdre, on est complètement désorienté. C'est pour ça que ça me faisait penser justement à quand on joue à Kola Maillard où on a les yeux bandés et on nous tourne, on nous tourne, on nous tourne, on nous tourne, on nous tourne. Et quand on rouvre les yeux, on nous enlève le bandeau qu'on avait sur les yeux, on titube un peu. On titube, on ne sait plus vraiment où on est. Eh bien, en fait, une démarche où on est trop dans l'action, c'est exactement ça. Surtout si, en plus, on rencontre vraiment des prétendants, on fait pas mal de muqabala, bah, la réalité, c'est qu'on finit par se perdre. Pourquoi on se perd ? Parce que, justement, on n'a pas une espèce de carte sous les yeux qui nous rappelle ce qu'on est venu chercher. Et vous allez voir, ça fait partie des causes dont je voulais vous parler. Mais je ne vais pas... mettre la charrue avant les bœufs, on va déjà essayer de faire dans l'ordre. Et pour moi, on ne peut pas parler des causes si on n'a pas avant défini c'est quoi une cause et c'est quoi faire les causes, mais de manière un peu imagée pour qu'on s'en rende bien compte. Pour qu'on comprenne bien l'intérêt d'un tel épisode sur les causes, il faut qu'on se rappelle ce que c'est qu'une cause. Et pour ça, je vous fais un petit throwback. Je vous ramène à l'épisode que j'avais enregistré il y a quelques temps avec Citan. C'est un épisode sur notre rapport à l'argent. Et en fait, dans cet épisode-là, on avait rappelé ce que c'était que le risque. On peut traduire ça par de la subsistance. Dans cet épisode-là, on avait expliqué que le risque, il provient d'Allah. Et qu'on avait expliqué une notion qui est très importante, c'est qu'en même temps que qu'Allah nous a créés, il a créé notre risque. C'est un full package en fait. Nous et notre subsistance, on est liés à jamais. Ça fonctionne par pair. Et avant qu'on voit comment ça fonctionne justement cette paire-là, je voulais qu'on s'arrête sur deux ayahs du Coran, qu'on traduit par deux versets parfois. Je voulais m'arrêter sur deux ayahs parce que c'est des ayahs que je trouve très belles et qui amènent à méditer justement sur le fonctionnement du risque par la suite. La première ayah, c'est une ayah de la sourate Hud, donc la sourate 11, ayah numéro 6, bismillahirrahmanirrahim. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah qui connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre explicite. La deuxième ayah que je voulais vous partager, c'est une ayah de la sourate Taha, donc sourate 20, ayah 132. Et commande à ta famille la salat, donc la prière, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture. C'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Oui, subhanallah, moi ce que j'aime dans ces deux ayahs-là, c'est que Allah, il nous dit un point fondamental, et pour moi c'est le point de départ de notre conversation, c'est que le risque, c'est son affaire. C'est lui qui gère. Nous, en revanche, notre devoir, notre rôle, c'est d'aller le chercher. Et pour comprendre aussi comment fonctionne ce risque qu'on doit aller chercher, j'ai envie de vous partager un hadith du prophète, qui est issu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui, je trouve, résume assez bien le fonctionnement du risque et de l'être humain. Donc, selon Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui l'agré, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: certes, si le fils d'Adam fuyait sa subsistance comme il fuit la mort, sa subsistance le rattraperait comme la mort le rattrape. Rapporté par Abu Nuaym et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha numéro 952. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith et de ces ayats? C'est que le risque, il nous suit. On va à gauche, il va à gauche. On va à droite, il va à droite. On va devant, il va devant. Le risque, il est toujours avec nous. Et pour qu'on comprenne bien, j'aimerais que vous me suiviez un petit peu dans une métaphore que je vais utiliser, qui moi en tout cas me parle beaucoup. Moi, je vois le risque comme une énorme piñata au-dessus de nos têtes. La piñata, c'est quoi? C'est un contenu en papier mâché qui est assez volumineux et qui est souvent à quelques centimètres de notre tête. Souvent, c'est on fait ça pour des enfants qui fêtent leur anniversaire. Et dans ce contenu en papier mâché, on y met tout un tas de choses. Des friandises, des confettis, des petits cadeaux. Et l'enfant qui doit recevoir justement tout cela, il a un bâton à la main. Il a les yeux bandés, mais il a un bâton. Et avec ce bâton, il doit aller taper dans la piñata pour que la piñata se déverse sur lui. Et bien moi, je vois le risque comme ça. C'est une grande piñata au-dessus de nous, c'est une espèce d'énorme besace. Comme là, il l'a rempli de plein de choses. Une besace qui donne envie, une besace qui est là pour nous. Mais en revanche, ça ne se débloque pas tout seul. Ça se débloque, comme Allah nous le dit, par la persévérance et la salat, par la piété, par le bon comportement. C'est pour ça que pour moi, c'était important de vous citer ces deux ayats-là, plus le hadith, parce que ça donne, je trouve, une vision globale de ce qu'est le risque. Et ça nous fait comprendre une chose, c'est qu'en fait, le risque, c'est pas tant d'aller chercher, encore une fois, d'être en pleine action, d'aller chercher son prétendant ou sa prétendante. Ça peut faire partie des causes, attention. Hein. Mais parmi les causes, il y a vraiment le fait de faire le bien autour de soi, de débloquer certaines situations qui parfois sont pas forcément liées à notre objectif premier, qui est celui de se marier. Donc finalement, une fois qu'on s'est dit ça, ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous met pas des bâtons dans les roues, mais il nous met plutôt des bâtons sur notre route. Des bâtons qui sont divers et variés, qu'il faut savoir reconnaître, et qui encore une fois nous mèneront, bien qu'il l'est, à débloquer notre risque, quel qu'il soit. Là, en l'occurrence, on parle du mariage, mais la vérité, c'est que on a un risque qui est financier, on a un risque au niveau des enfants, notre risque, il est, encore une fois, notre besace, elle est énorme, en fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être qu'elle est si énorme que c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs bâtons, parce qu'à un moment donné, il faut taper un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Ah, le risque de l'enfant, c'est là-bas. Et notre rôle, c'est vraiment ça, d'aller chercher ces différents bâtons-là. Plus finalement que d'essayer de se dire « moi, je veux... » En fait, j'ai l'impression que quand on est dans une démarche très, très, très proactive, on pourrait se faire croire à tort que c'est nous qui avons ramené notre risque, c'est nous qui avons ramené notre mari, c'est nous qui avons trouvé notre épouse. Or, Allah nous l'a dit, c'est lui qui nous nourrit, hein. c'est pas nous. En revanche, nous, ce qu'on doit faire, c'est activer tout ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler de ces manières-là. Moi, j'avais à cœur aujourd'hui de vous parler de causes qui nous incombent à nous. Parce que encore une fois, c'est quand même bien plus sain de commencer par nous. Comme on dit, charité ordonnée commence par soi-même. Et c'est plus sain de commencer par nous parce que, contrairement à une démarche proactive où on peut être déçu ou frustré quand on ne rencontre pas, là, on n'attend rien de personne. On n'attend pas que le prétendant il soit prêt. On n'attend pas d'être dans une ville où on va rencontrer quelqu'un. Là, c'est vraiment des causes que moi, en tout cas, que j'ai faites, ou en tout cas, quand moi, je les ai faites, c'était vraiment de moi à moi, ou de moi à Allah, ou de moi à ma vision du prétendant. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point on a plein de choses à bosser, mais dans le bon sens du terme, hein, avant justement d'être prêt pour le mariage. Et donc, c'est encore une fois, c'est une bonne nouvelle, parce que ça, c'est des choses, c'est à nous de nous retrousser les manches, en fait. Ça ne dépend que de nous. Donc, c'est super. Dès lors où Inch'Allah, on fait les causes, encore une fois, on va chercher son bâton. Le risque, il est là et on n'a plus qu'à taper. Bi'idhnillah, avec la volonté de la volonté d'Allah. On va sans plus tarder, on va commencer avec la cause numéro 1 que j'ai mise en place. C'est que j'ai pris mes distances avec les plateformes de rencontres. Donc, je sais que ça pourra en faire sourire quelques-uns. Mais moi, je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai pris des distances. Déjà parce que justement, moi, les plateformes de rencontres éthiques, franchement, j'ai donné. Vous-même, vous savez, si vous êtes là dans la saison 1 ou si on se connaît dans le privé. Moi, je suis une personne qui... j'ai jamais compris, en fait, les gens qui disaient « Ah, mais moi, les plateformes de rencontres, c'est pas pour moi. » Mais moi, j'ai toujours envie de répondre « Mais c'est pour personne. Alors, vraiment, ne t'en fais pas. Ça ne convient absolument à personne. » Mais c'est juste que, parfois... c'est la seule cause qui semble être disponible à l'instant T en fait. Et donc moi j'avais beaucoup donné et en fait j'ai mis du temps à réaliser à quel point ça avait créé des séquelles en fait dans mon mindset, dans mon cœur aussi. Dans le sens où l'un des premiers travers que ça avait créé, c'est que j'étais dans une espèce de course effrénée. Et dès que ça marche pas, soit de mon côté ou du côté du frère qui souhaite pas poursuivre, ben en fait on ne souhaite pas rester sur un échec. C'est l'ego là qui parle. C'est l'ego qui parle et puis on est vraiment profondément blessé. Donc on se dit ah non là je faut que je me remette en selle, faut que je re-rencontre à nouveau quelqu'un. Et c'est la pire des raisons pour lesquelles on fait une mukabala en fait. On ne fait pas une mukabala pour soigner son ego et on ne fait pas une mukabala non plus pour soigner sa blessure ou le sentiment d'échec qu'on a eu. Mais les personnes qui sont sur des plateformes de rencontres, je pense que vous ne me démentirez pas, vous connaissez ce sentiment de tristesse, d'échec quand ça ne marche pas. On n'a qu'une envie, c'est de remonter en selle pour pas parce que ça fait mal à l'âme, au cœur, de rester sur un échec. Mais le problème, c'est que oui, ça fait mal, mais c'est pas une raison pour repartir dans une mukabala, parce qu'on va repartir dans une mukabala pour des mauvaises raisons, et on va jamais, ou en tout cas, ça va rarement aboutir à une rencontre saine, parce qu'en fait, l'intention de départ ne l'est pas, et en tant que musulman, on le sait. Les actes ne valent que par leur intention, dans le sens où Allah, il jugera d'abord nos intentions, mais aussi parce qu'en fait, si on veut un résultat sain, il faut poser une bonne intention de prime abord. Et si on pose une mauvaise intention de prime abord, le résultat risque aussi de ressembler à cela. Ça, c'est l'un des premiers travers que ça a créé, cette saturation des plateformes de rencontre, chez moi en tout cas. La deuxième chose que ça avait créé, c'est que j'étais dans une... j'en ai parlé un peu, mais j'étais perdue en fait. C'était vraiment le Kola Mayer, quoi. Trop de rencontres. Et j'en étais à un moment où j'étais vraiment comme perdue en mer et j'étais déboussolée. À chaque fois que je rencontrais une personne, la personne, je la trouvais, mais en gros, jamais assez bien. Et je savais que c'était malsain de réfléchir comme ça. Alors attention, hein, parfois, je sentais bien qu'il n'y avait pas de... On n'allait pas pouvoir continuer avec ce frère, mais j'étais tellement perdue dans mes critères, que je ne savais plus pourquoi, en fait, je ne voulais pas. Je savais juste que je ne voulais pas, mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème, parce que ça montre que on ne sait plus vraiment ce qu'on fait là. Je vous passe le fait que j'avais déjà fait une formation sur le mariage, que j'avais vu pas mal de vidéos sur les questions à poser sur le mukabala, mais malgré tout ça, quand j'arrivais en face du frère... Oh, je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire, les mukabala semblaient me durer 3h30 alors qu'en fait c'était 1h. Et c'est là que je me suis dit, bon, si tu veux, encore une fois, faire les choses bien, si tu veux une belle issue, il faut qu'il y ait un bon début. Et le bon début, c'est sortir des plateformes de rencontre pour traiter ta problématique à la racine. Parce que c'était clair, net et précis, j'avais un problème et il fallait que je puisse le traiter. La deuxième cause que j'ai faite... et qui, je pense, a eu vraiment des incidences dans l'issue de la mukabala que j'ai faite avec mon mari, c'est que j'ai noté mes valeurs repères. Et ça reprend un petit peu la problématique précédente. Je vous l'ai dit, j'étais perdue. J'étais comme un bateau qui vogue un peu dans la mer et qui est vraiment pas stable. Je manquais d'ancrage. Vraiment, mon ancre, elle était loin derrière. C'était un bateau presque qui titubait, alors ça veut rien dire, mais c'est juste pour vous montrer un peu, j'étais presque, pas la dérive, j'exagère, mais j'étais pas stable, pas stable. Et pour moi, subhanallah, c'est vraiment arrivé, c'est vraiment Allah qui m'a inspiré cette idée, mais il était évident, limpide, que noter mes valeurs, ça me permettrait de réaliser cet ancrage-là. Moi, j'en ai parlé aussi en introduction, avant qu'on parte sur qu'est-ce qu'une cause. Pour moi, on vit vraiment dans un monde où il y a des instances qui ont un projet pour nous, et ce projet, c'est de pas, c'est vraiment de détruire la famille et de faire en sorte qu'on soit pas forcément heureux en couple et pas forcément heureux en étant célibataire non plus. Et pour ce faire, l'une des armes qu'ils peuvent avoir, c'est justement de nous donner une vision erronée de l'amour, du mariage, à travers eh bien, des médias, des réseaux sociaux, des ouvrages, quels qu'ils soient, des livres. Et on est ancré dans ces contenus-là depuis presque notre naissance. Enfin, moi, franchement, je regarde entre les dessins animés qu'on a ingurgités, les séries. Melrose Place, Beverly Hills, moi, pour moi ça a commencé, j'avais 10-11 ans, aujourd'hui j'en ai 38, potentiellement ça fait 20 ans qu'on baigne dans une vision qui est erronée. Donc de fait, c'est des vagues qui sont hyper puissantes qu'on a face à nous. Et si on veut tenir face à ces vagues-là, il faut qu'on soit solide. Et moi, ce qui m'a aidé à me solidifier quand la vague est arrivée, parce que croyez-moi, quand mon futur époux, quand on m'a présenté mon futur époux, il y a une grosse vague de waswas et de, encore une fois, de vision erronée de l'amour et du mariage qui a essayé de me prendre. Et ça, c'est clairement, c'est les plans de Shaitan. Ce qui m'a aidé à tenir, malgré cette vague énorme, c'est mes valeurs repères. Franchement, c'est quoi une valeur repère? C'est un principe qui est fondamental pour nous. C'est une valeur qui nous définit profondément. Et subhanallah, moi j'ai beaucoup beaucoup écrire ces valeurs repères pour deux raisons principales. La première, c'est que je trouvais que c'était plus facile de définir trois valeurs repères, par exemple, que de restreindre mon futur prétendant à trois qualités essentielles que je recherche. Ça, pour moi, c'était trop dur. Et les valeurs repères, elles ont vraiment ce côté t'en as cité 4 ou 5, ça peut te définir, ça peut définir ta vision que tu as de ton futur mariage. Et avec 4 valeurs repères, tu vas super loin. 3 ou 4, moi j'en avais noté 3 en l'occurrence. Ça peut vraiment te permettre de dresser un portrait à la fois suffisamment subjectif de ton prétendant ou ta prétendante pour que tu puisses te dire ça me correspond, ça me correspond pas. Et en même temps suffisamment objectif, suffisamment large pour laisser la porte ouverte au champ des possibles, en fait. Pour laisser la porte ouverte même au plan d'Allah. Ça, c'est fondamental. Mais ça, on en parlera plutôt en deuxième partie de conversation. Inch'Allah, je ne voudrais pas brûler les étapes. Mais en tout cas, les valeurs repères, elles ont en ça qu'elles sont fortes. Elles sont simples. Et moi, ce que j'aime dans les valeurs, c'est qu'en fait, c'est la première démarche que tu fais en co-construction avec ton mari ou ta future épouse, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tes valeurs, c'est des valeurs que tu veux partager avec l'autre. Quand tu notes tes valeurs repères, c'est des valeurs qui sont importantes pour toi et que tu veux retrouver chez l'autre, en fait. Donc, c'est super parce que c'est presque un terrain neutre, mais en même temps qui te correspond un petit peu et qui correspond un petit peu à l'autre. Alors que souvent, quand on parle des qualités qu'on recherche chez une personne, c'est des qualités qui sont très centrées sur nous. Je veux que physiquement il soit ou elle soit athlétique, je veux que qu'il soit curieux, je veux qu'il soit drôle, je veux qu'elle soit pieuse, je veux mais c'est je veux pour moi, c'est ça que ça veut dire en fait. Alors que les valeurs, encore une fois, c'est plus je veux pour nous, je veux pour notre mariage. Et moi, vraiment, c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Et parmi les valeurs que j'ai notées, c'est juste pour vous donner des exemples, je vais pas toutes les citer, mais une des valeurs qui était très importante pour moi, c'est la transparence. Moi, c'est une de mes valeurs clés. Les personnes qui cachent pas la vérité. Moi, c'est quelque chose, je vous assure, c'est Justement, c'est un peu lié à ce que je vous disais, à mon intention au niveau de la saison 2, c'est que c'est les faux semblants qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, en fait. C'est parce qu'on nous a fait croire que l'amour était comme ci, comme ça, alors que les personnes qui ont créé ça savent très bien que c'est pas ça l'amour, que c'est pas ça le mariage, ou en tout cas que ce n'est pas que ça. C'est pas ça, c'est pas que ça, et ça c'est important de nuancer ce propos-là. Ces personnes-là, elles ont sciemment caché la vérité. Elles ont fait acte de kufr, parce que souvent on traduit kafar, ou enfin on dit que les personnes sont des kafiroun, c'est des personnes qui ne croient pas. Mais c'est plus profond que ça. Kafara, c'est l'acte de dissimuler. C'est l'acte de dissimuler notamment la vérité, d'empêcher la vérité de percer à jour. On la couvre, c'est ça, de faire acte de mécréance. Faire acte de mécréance, c'est aussi faire acte d'ingratitude. Parce qu'on sait d'où ça vient, mais on se fait croire qu'en fait c'est grâce à nous, ou on veut pas que les gens sachent d'où vient toute cette abondance-là, parce que ça sert pas nos propres objectifs. Et pour moi, ça c'est une valeur qui est essentielle, et quand je l'ai notée, ben, je vous assure, subhanallah, une des premières phrases que mon époux m'a dites, c'était vraiment en lien avec cette valeur. Et ça a résonné. Ça a vraiment résonné, et ça a permis, quand les vagues sont arrivées, quand mes anciens travers sont revenus, quand mes anciens, comme on dit, il y a les démons qui reviennent là, les anciens démons qui reviennent, bah, ça permet de se dire non, 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 ça vient là, mais attention, là j'ai vu des choses qui sont belles, des choses qui sont intéressantes, donc ceci, ce n'est qu'une vague, et ça retournera pas mon bateau comme ça a pu le retourner dans le passé. C'est à ça que ça sert, les valeurs repères. Et pour moi, c'est vraiment, c'est une cause que je suis très très heureuse, entre guillemets, de vous partager, parce que pour moi, encore une fois, c'est je sens vraiment que c'est un droit qui m'a inspiré de le faire. C'est une cause qui m'a beaucoup aidée. Et si vous venez à faire cette cause-là, s'il vous plaît, faites-moi un petit message, dites-moi comment ça s'est passé pour vous ensuite, parce que ça m'intéresse, Inch'Allah, et puis peut-être qu'on pourra le partager à d'autres personnes. La troisième cause que j'ai faite, c'est une cause un peu particulière, c'est que j'ai donné aux autres, et notamment à une personne en particulier. Avant de rencontrer mon mari, j'ai rencontré une personne qui est très importante pour moi aujourd'hui dans ma vie de croyante. Inch'Allah, c'est une sœur fidèle qui est exceptionnelle d'exemplarité à bien des égards, machin là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve. Et quand j'ai rencontré cette sœur, je sais pas comment dire ça, mais je me suis pas du tout dit c'est grâce à elle que je vais rencontrer mon époux, pas du tout. Mais j'ai senti que c'était une sœur qui avait besoin qu'on lui donne du temps, entre autres, et pour commencer. Et moi, franchement, à cette époque-là, du temps, j'en avais, mais finalement. Enfin, je pensais que j'en avais pas tant que ça, parce que j'étais entourée de ma famille, de mes parents, de mes amis, et en plus je devais travailler, donc franchement le temps m'était compté, c'est vrai. Mais je me disais, non, cette sœur, elle a besoin qu'on lui accorde du temps, et elle le mérite en fait, parce que encore une fois, moi je me délectais aussi de nos conversations. Et justement, dans le cadre de nos conversations, on a discuté d'une chose, et d'un vêtement particulier, et il s'avère que moi j'avais un exemplaire de ce vêtement-là, et je me suis dit, ben, je vais lui offrir. Si je raconte ça, c'est pas du tout pour me vanter ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour. Encore une fois, on est là pour extraire des. Comment dire? Extraire de la méditation de mon parcours à moi, mais franchement, si c'était pas pour ça, je le dirais pas. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve de toute. Marque d'ostentation. Alors, Oumamine. Donc, on a discuté d'un vêtement, et bah, il s'avère que j'en avais besoin de ce vêtement-là. Mais, alhamdoulilah, j'avais deux exemplaires. Je me suis dit, bon, bah, un, c'est mieux que rien. Si moi, j'en ai besoin, ma sœur aussi, elle en a besoin. Ma sœur Fidler aussi en a besoin. Et franchement, je vous assure, je m'en souviens encore, quand j'ai posé l'intention de lui envoyer ce très 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 modeste présent, hein, soyons clairs, c'était vraiment pas grand-chose. J'ai posé l'intention de vouloir pour ma sœur ce que je veux pour moi, ou d'aimer pour ma sœur ce que j'aime pour moi, comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que vraiment ça a beaucoup joué. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est par le biais de cette merveilleuse sœur Fillah que j'ai rencontré mon époux, parce qu'en fait c'est elle qui me l'a présenté. Et je pense que le fait de faire les causes en essayant, vraiment en essayant modestement de faire le bien ou de soulager un moumine, un de nos frères ou une de nos sœurs filaires, elles sont là les vraies causes en fait. Encore une fois, au-delà de... je dis pas que c'est soit ça, soit aller sur des plateformes de rencontres, soit faire des rencontres, c'est vraiment pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, moi ce que j'ai pu voir à travers mon expérience, c'est que on peut avoir tendance à ne pas voir le lien entre faire ces choses-là et avoir son risque du mariage qui arrive. Par ailleurs, ce qui est assez incroyable, c'est que cette sœur Fillah, je l'ai rencontrée à travers le podcast. C'est une invitée, en fait. Elle a été invitée dans le podcast. Je ne donnerai pas son nom parce que c'est important, je trouve, aussi de garder un peu parfois d'intimité, de discrétion à l'égard de chacun. Mais en tout cas, cette sœur-là, avant le podcast, je ne la connaissais pas. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, ce podcast-là, lui-même, l'intention de ce podcast, c'était de m'aider, mais d'aider aussi mes frères et sœurs filaires, en fait. Et je savais, ça c'est pareil, quand j'ai fait le podcast, je sentais que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mieux, hein, je ne voudrais pas faire celle qui a la connaissance de l'inconnu, parce que je ne l'ai pas. Mais j'ai vraiment eu le sentiment que ce podcast, c'était une manière de servir Allah et que Allah me demandait de le servir de cette manière-là. Allahu a'lam. Donc vous voyez, ces deux actions-là, je pense que c'est des actions qui sont véritablement des causes, des bâtons, qui permettent d'aller un peu secouer sa piñata et de descendre son risque. Et pourquoi je le pense profondément? Parce qu'en fait, ça fait énormément penser à l'histoire de Sayyidina Moussa. L'histoire de Sayyidina Moussa qui est ressassée dans la sourate Le Récit, Al-Qasas, c'est la sourate 28, il me semble. Et dans cette sourate-là, on apprend, en fait, je vais vous citer directement les ayats, ce sera plus simple parce que ça m'évitera d'être dans l'erreur. Mais juste pour vous replacer le contexte, à l'époque, au moment où commence le récit de la rencontre de Moussa et de sa future épouse, Moussa a quitté l'Égypte. Ce serait même plus correct de dire qu'il a fui l'Égypte parce qu'il a commis là-bas un meurtre sans le vouloir. À la base, il voulait régler une injustice et ça s'est terminé de manière dramatique. Donc, il a fui l'Égypte parce que sa tête était mise à prix, très clairement. Et il est arrivé à Madian après un long périple. Et arrivé à Madian, il se passe un événement qui est compté, donc, qui est consigné dans la sourate Al-Qasas, dont je vais vous citer quelques versets. Bismillahirrahmanirrahim, je vous les cite en français, hein. Et ayant pris la direction de Madian, il se dit, donc Moussa, peut-être que mon Seigneur me mettra sur la bonne voie. Arrivé enfin au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens occupés à abreuver leurs troupeaux, pendant que deux jeunes femmes, retenant leurs bêtes, se tenaient à l'écart. Quel est votre problème ? Leur demanda Moussa. Nous ne pouvons, répondirent-elles, abreuver notre troupeau que lorsque les bergers seront partis, car notre père est d'un âge fort avancé. Moussa fit alors boire le troupeau des deux jeunes filles et se retira à l'ombre en disant « Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. » Puis l'une des deux jeunes filles revint vers lui, d'un pas timide, pour lui dire « Mon père voudrait te voir pour te récompenser d'avoir abreuvé notre troupeau. » Moussa se rendit alors auprès du vieillard et lui raconta son histoire. Le vieillard lui dit « Tu n'as plus rien à craindre, tu es désormais hors de portée des injustes. » Je m'arrête là, parce que dans le cadre de notre conversation du jour, on peut déjà beaucoup, il y a beaucoup à méditer sur les ayats qu'on vient d'écouter, machallah. Donc pour la suite de l'histoire, le père de la future épouse, de celle qui sera l'épouse de Moussa, propose en effet à Moussa de marier l'une de ses deux jeunes filles, en échange de quelques années de travail à ses côtés, et Moussa accepte. Et en fait, ce que moi je trouve très beau et très inspirant dans cette histoire, il y a plein de choses. La première chose, c'est que C'est ce qu'on se disait au début de ce chapitre sur ces causes où il s'agit de faire du bien autour de soi. C'est que Moussa, quand il est parti voir ces deux jeunes femmes, donc sa future épouse et la sœur de sa future épouse, il n'est pas parti en se disant « faut que je cherche quelqu'un pour me marier ». Il est parti les aider. Il a commencé en disant « quel est votre problème ?» Lui, il était là pour apporter une solution. Et subhanallah, c'est le fait d'avoir fait le bien qui lui a permis de se marier. Ce que je trouve aussi magnifique dans cette ayah-là, et notamment dans la ayah « Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier », c'est que cette doura, c'est une doura que les savants encouragent vivement les célibataires à réciter lorsqu'ils souhaitent se marier. C'est ça que je trouve trop beau, c'est que les savants eux-mêmes le disent, si tu veux te marier, récite cette doura. Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. Et quand on voit à quoi elle est liée, cette doura, elle est liée avant à une action, à une bonne action. Donc en fait, quand on relit bien le Coran, les deux finalement sont liés. Il y a cette doura du mariage et il y a la bonne action. Moi, aujourd'hui, je le comprends vraiment comme ça. Le risque du mariage, au-delà d'aller sur des plateformes ou de faire des choses très concrètes, il y a vraiment faire le bien autour de nous, permettre aux gens de nous garder en mémoire aussi. Parce que parfois, en tant que célibataire, on peut avoir cette impression que les gens mariés nous ont oubliés. Ils nous avaient promis que t'inquiète, quand je serai mariée, je vais demander à mon mari s'il n'a pas des amis, ou je demanderai à ma femme si elle n'a pas des amis. Et en fait, les gens, ils sont mariés, ils font leur vie, etc. Mais alors déjà, ils font leur vie, c'est une réalité, c'est une nouvelle vie à deux, c'est beaucoup de challenges, c'est un nouvel emploi du temps qu'il faut reconfigurer. Et puis surtout, nous en tant que célibataires, ce qu'on peut se demander, en tout cas, c'est qu'est-ce que je fais pour rester dans l'esprit de mes frères et sœurs filles qui sont mariés ? Est-ce que je prends du temps pour eux ? Est-ce que je demande des nouvelles de leurs enfants ou que sais-je ? C'est-à-dire que, encore une fois, l'idée, c'est pas, c'est vraiment pas de fustiger les célibataires en disant « de toute façon, c'est de votre faute hein, si vous êtes célibataire, pas du tout ». Mais c'est plutôt de dire « bon, si cette situation elle a beaucoup duré, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer ?» Parce que moi, franchement, je vous dis la vérité, hein, moi, j'ai été arrivée à un point où ça faisait des années que je cherchais à me marier. Et j'avais compris que justement mes tentatives avaient été vaines, mais vaines dans le sens où elles n'avaient pas abouti à un mariage. Et donc je me suis dit, Madina, si ça fait autant d'années que tu en es là et que tu n'as pas encore transformé l'essai, la moindre des choses que tu puisses faire, c'est faire un examen de conscience. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est regarder là où ça a péché. Observe la manière dont tu fais les choses et en fonction, corrige, rectifie. Il y a un proverbe qui dit comme ça, qui dit quelque chose comme quand on fait tout le temps les mêmes choses, on ne peut pas s'attendre à un résultat différent. Et ça, c'est vrai pour tout, mais c'est extrêmement vrai pour ce type de démarche. Si à chaque fois on rencontre les mêmes profils et que les profils n'aboutissent pas, il faut se poser les bonnes questions. Si à chaque fois on opère les mêmes méthodes, et moi c'était le cas, les mêmes méthodes pour rencontrer, et que ça aboutit pas, il faut savoir se dire, est-ce que je dois changer de méthodologie, ou est-ce que je dois faire autre chose ? Et pour moi, vraiment les trois causes que je viens de vous citer aujourd'hui, c'est des causes auxquelles j'avais pas pensé avant, mais quand j'ai rencontré mon époux et que j'ai vu justement que avoir fait les choses différemment, ça m'avait permis d'aboutir à un résultat différent. La Mungabala se poursuivait d'une manière différente. Mon état d'esprit aussi était en train de changer. L'un des premiers réflexes que j'ai eu, c'est que je me suis dit, Madina, note ça, note ces changements, note ce que tu as observé, note ce que tu as fait, parce que, Inch'Allah, ça pourra servir. Ça pourra servir à d'autres, ça pourra me servir à moi aussi pour méditer sur mes actions, pour essayer de faire mieux aussi dans les prochaines de mes actions, même si elles ne sont pas forcément liées pour le coup au mariage. Et c'est vraiment comme ça finalement que cet épisode est né. Il a commencé comme ça, il a commencé par un changement que j'ai opéré, un changement que j'ai noté et puis un changement qu'il me tardait de, de vous partager ou de partager avec vous en tout cas. Je vais m'arrêter là pour la première partie des causes parce que je voudrais pas être dans la surinformation et dans la surenchère, mais dans la deuxième partie, on abordera plutôt des causes, toujours des causes qui nous incombent à nous, mais des causes où on peut changer la posture qu'on a par rapport à son futur prétendant, sa future prétendante, la posture qu'on a par rapport à soi, et puis la posture qu'on a surtout vis-à-vis d'un droit. Ça, c'est vraiment... ça a été aussi un game changer, comme on dit. Et j'ai hâte de vous en parler et de vous partager un petit peu, encore une fois, mes réflexions et mes méditations autour de tout ça. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de célibataires autour de vous. Encore une fois, ne serait-ce que pour permettre à chacun d'élargir ses horizons. Et puis, à mes frères et sœurs filles qui sont mariés, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que cet épisode, c'est pas qu'un épisode pour les célibataires. C'est un épisode pour toutes les personnes qui souhaitent aller chercher son risque de la meilleure manière qu'il soit, Inch'Allah. Donc, encore une fois, je demande à Allah Ta'ala d'agréer mes propos, d'agréer ma démarche. Je demande à Allah Ta'ala qu'il vous préserve, évidemment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette conversation. في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes. Et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.